Bonjour et bienvenue à Échangeurs Turcotte, une émission où on réfléchit sur des enjeux importants pour les citoyens de la MRC, Maria Chapdelaine. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que moi je trouve vraiment fascinant et je trouve qu'on n'en parle pas assez. On va parler d'urbanisme parce qu'on vit dans nos villes, on vit dans nos communautés. Puis des fois, on se pose des questions, mais on va démystifier tout ça aujourd'hui. Avec moi, j'ai Alain Mailloux, qui est directeur du service d'urbanisme de Dolbeau-Mistassini, et Pierre-Luc Dufour, directeur fondateur de la firme Forum Services d'urbanisme.
Bonjour.
Je l'ai bien dit?
Oui.
Ouais, super. Bonjour, messieurs. L'urbanisme, là. Là, moi, je suis à la maison, je suis en train de me dire l'urbanisme. C'est quoi l'urbanisme? Comment qu'on définirait ça, là?
Bien, ça peut être très complexe, mais ouais. Je pense que la façon la plus simple de l'expliquer à monsieur, madame, tout le monde, comment ça se répercute dans leur vie, c'est le permis de construction.
OK.
Tout le monde, mais idéalement, tout le monde prend des permis de construction pour faire des travaux chez eux. Mais dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est comment ça s'applique aux citoyens. Mais ça vient d'une planification plus haut. Donc, dans le fond, comment on souhaite que la ville s'aménage, quel genre de bâtiment on veut, à quel endroit, nos secteurs de villégiature, on les veut comment. Puis là, ça ajoute les normes de verdissement puis d'architecture. Mais gros, tu sais, très simplement, pour monsieur, madame, tout le monde, ce qui s'applique à eux, c'est au niveau du permis de construction, qui, dans le fond, ça, c'est le rôle de la municipalité, l'inspecteur à la ville qui va émettre le permis. Lui, il s'assure que, justement, que le projet de monsieur, madame, tout le monde respecte la vision qui est derrière puis la planification qui a été pensée en amont, justement, pour que sur le terrain, le permis de construction, qu'est-ce qui se construit, bien, ça reflète qu'est-ce qu'on veut puis qu'est-ce qu'on, dans le fond, qu'est-ce qu'on veut comme ville, en fait.
Est-ce que je peux rajouter quelque chose?
Ben, tellement.
Vas-y. Bon, j'aurais pensé, puis j'ai trouvé une petite définition qui pourrait vulgariser. Parce que quand on regarde la définition de l'urbanisme, on voit le dictionnaire Larousse, dictionnaire Robert. Là, on arrive avec une définition technique.
Ouais.
Mais j'ai mis la main sur de quoi que je trouve intéressant là, pour monsieur, madame, tout le monde. Là. L'urbanisme consiste en l'organisation et l'aménagement des espaces urbains. OK? Il s'agit de rechercher l'équilibre entre le bien-être des habitants, oui, et le dynamisme économique. Ensuite, l'amélioration des rapports sociaux, sans oublier la préservation de l'environnement. Ouais. Et qu'on cherche tout le temps à créer cet équilibre-là. L'enjeu, le bien-être de l'habitant. Donc, c'est l'organisation spatiale au complet de notre
créer
territoire.
Créer des milieux de vie.
Créer des milieux de vie autres que le bâtiment lui-même.
Ouais, ouais.
Parce que le bâtiment lui-même, quand on arrive dans un bâtiment résidentiel, commercial, industriel, c'est l'architecte qui est là-dedans.
Ouais.
Ah bon, c'est sûr qu'on lui donne des petites normes là, de hauteur de bâtiment, puis de marge, ces affaires-là, mais la conception du bâtiment, son apparence, l'architecte s'en occupe. Mais ce bâtiment-là, il s'insère dans un milieu, qu'il soit résidentiel, commercial, industriel, ce milieu de vie-là, est réservé à l'urbanisme.
Okay.
Là, comment on va articuler les espaces libres de ça, la circulation, la cohabitation entre les usages,
ouais.
Si on a un parc industriel au côté du résidentiel, ces choses-là, ouais. les écrans protecteurs, c'est de l'urbanisme.
Fait que si maintenant, moi, là, je vais vulgariser, là, si j'ai bien compris, dites-moi si je me trompe. Pour monsieur, madame, tout le monde, l'urbanisme, on a l'impression que c'est quand nous, on veut faire des rénos chez nous, aménager notre terrain, puis que c'est les limites qu'on nous met, mais finalement, c'est pas ça. C'est une réflexion qui est pour créer un milieu de vie, puis tout le monde se conforme à ça, en fait, pour que tout le monde aille dans le même sens.
Si je rajoutais là-dessus, parce que tantôt, M. Dufour parlait du permis.
Oui.
Le permis est comme la finale en soi. C'est que la définition que j'ai donnée, c'est le départ de tout ça dans l'urbanisme. De là va découler de la réglementation pour un système social équilibré.
Ouais.
C'est pour en arriver à un bien collectif.
C'est ça.
Un bien collectif.
C'est pas juste pour nous, tu sais. Des fois, on regarde ailleurs, on fait « il me semble que… » Mais tu sais, donc, on est tous soumis à la même réglementation, on risque d'avoir une communauté plus agréable, en fait.
C'est ça. Oui, mais, mais l'expression consacrée, vous l'avez dit, c'est créer des milieux de vie de qualité.
Ouais.
C'est ça. Puis Alain, il a ajouté aussi les usages. On me pose souvent la question parce que c'est un enjeu beaucoup dans la région, les centres-villes.
Oui,
comment on fait pour revitaliser un centre-ville?
Dolbeau-Mistassini est un exemple extraordinaire.
C'est des usages.
Oui.
C'est des usages. C'est des usages aussi qu'on veut exclusifs au centre-ville, des bureaux professionnels, certains services. Si on les concentre à cet endroit-là, mais là, on crée un dynamisme. Tantôt, Alain l'a mentionné, si on a des usages industriels, résidentiels, commerciaux, tout pêle-mêle dans un quartier, ça ne prendra pas. Tandis que dans un centre-ville, si là, on concentre justement une masse de travailleurs, d'institutions, là, on crée un dynamisme entre elles. On crée aussi un achalandage commercial. Donc là, viennent les restos, les bars, autres services que là, les employés de ces institutions-là vont aller. Donc là, on crée quelque chose. Puis là, si les restaurants sont là, les gens de l'extérieur, tu sais, qui ne travaillent pas nécessairement au centre-ville vont y aller parce que là, il se passe quelque chose.
Bien, comme quand on voyage, qu'on cherche le centre-ville, où est-ce que ça se passe?
T'sais. Mais le problème des usages, puis ils se posent partout à Deboumb-Sesny, à Saguenay, c'est que les usages, on va les permettre un petit peu partout, avec les demandes de promoteurs. Donc là, on se retrouve peut-être plus proche de l'autoroute, plus proche de la route régionale, dans le quartier industriel, où est-ce qu'il y a des terrains disponibles. Ouais. Mais là, si on soupaute partout, il y a plus de noyaux, dans le fond. S'il y a des restaurants partout, des bars partout, des services bancaires un petit peu partout, il n'y a pas un centre.
Oui, mais en même temps, Ville-Saguenay, c'est un très bel exemple parce qu'on le voit depuis la fusion de Ville-Saguenay, tous les centres-villes qui ne sont plus le centre-ville de Chicoutimi se disent qu'il faut revitaliser notre centre-ville quand peut-être que leur vocation devrait changer parce qu'on ne peut peut-être pas maintenir 5 centres-villes à Saguenay, je ne sais pas.
Bien, peut-être. C'est de se dire qu'est-ce qu'on veut dans un centre-ville puis d'y consacrer les usages, dans le fond. Ouais. Parce qu'à Saguenay, oui, il y a plusieurs centres-villes, mais il y a suffisamment d'entreprises pour peupler ces centres-villes-là. Puis actuellement, à Saguenay, il y a des entreprises de services technologiques, d'arpenteurs géomètres, de génie civil qui s'établissent un peu partout. Mais si la ville se donne la vision et puis là, on revient à notre base, là, une vision qui s'applique dans une réglementation qui va se confronter, dans le fond, au promoteur comme ça, quand il va demander son permis, on va dire non, tu peux pas là, mais tu pourrais là, au centre-ville.
Mais tu trouves pas que ça fait... tu sais, oui, on a peut-être des entreprises pour meubler toutes les centres-villes, mais il faut aussi que la population embarque dans ce projet-là. Tu sais, quand vous pensez, là, mettons...
Le projet commun.
Le plan d'urbanisme pour Deboumb-Mistassini, on a beau faire le plus beau plan au monde, si le monde n'embarque pas, parce que t'as beau mettre la rue Saint-Dominique à Jonquière et remettre plein de commerces, si tout le monde va faire son magasinage sur le boulevard Talbot, ben on s'aide pas, là. Non? Je sais pas. Ouais. Vous en pensez quoi?
Là, on embarque dans l'achat local.
Non, mais on peut y aller. Non, moi, je suis trop achat local.
C'est pas là qu'on veut aller. Ouais. Mais quand on revise un plan d'urbe, nous sommes en révision de plan d'urbe, c'est peut-être la raison.
Plan d'urbe, ça veut dire quoi?
Le plan d'urbanisme.
Plan d'urbanisme, OK. Excusez-moi. Là, je pensais dur comme la dureté. Là.
Le plan d'urbe de Deboumb-Mistassini, on est en révision.
OK.
Les outils d'urbanisme, ça a une durée de vie.
OK.
À peu près comme votre voiture. Mm-hmm. Ça a une durée de vie qui est normalement, aux 10 ans, s'il se passe des gros moves sur le territoire, ça pourrait être aux 5 ans, mais 10, 15 ans, à 15 ans, tu commences à être vieux un peu, puis Deboumb-Mistassini, on est dépassé 15 ans.
Oh, OK.
On est dépassé 15 ans, on a lancé le projet de révision en 2022, et puis on a mandaté une firme d'urbanisme pour dire où on est rendu. On a mandaté deux firmes, une en développement économique, là, stratégie immobilière, et puis qui s'est associé avec une firme d'urbanistes là-dedans, et puis qui nous parraine ou qui nous coach dans la révision du plan d'urbe. Nous en sommes rendus à l'étape, on a fait des étapes de consultation. On a consulté pour que les gens adhèrent, parce que là, on essaie de recouper ça.
Mais oui, c'est exactement. Oui.
C'est, pour faire adhérer les gens.
Tu ne l'avais pas dit, je l'aurais dit.
On est allé en consultation sur les grands thèmes. D'abord, avec la firme d'urbanistes, au printemps dernier, déjà, ça fait presque un an, on a dit, on va y aller sur 6 grands thèmes. Et ces thèmes-là, on va les valider devant la population. Donc, on a fait deux activités en fin août et début septembre 2023. On a eu une activité, on a invité sur invitation, mais c'était ouvert à tout le monde, qu'on visait le monde commercial, le monde des affaires. Puis ensuite, on est allé dans la population en général.
Oui, parce que c'est important. Eux aussi, c'est leur ville, c'est leur communauté.
C'est une innovation un peu qu'on a faite, parce que normalement, une ville, on dit, à l'hôtel de ville, période de consultation, on invite tout le monde, puis on se ramasse avec une personne dans la salle ou zéro. Oui,
c'est ça.
Mais là, on a dit, on va aller vers les gens. Donc, on est allé vers les commerçants, on est allé, entre autres, au motel Chute des Pères, je pense que c'était le 8 septembre. Et puis, le 9 septembre, le lendemain, la course, on s'est dit, on va s'allier avec une activité en ville, la course sucrée-salée, qui est sur la pointe des Pères. Mm-hmm. Et puis, la ville, on a tenu un kiosque de consultation sur les systèmes. Puis, dans les systèmes, on avait comme 4 axes.
Quand on parlait de système, là vous me parlez. C'est quel genre de système?
Je vais les élaborer.
C'est des thèmes. 6, le chiffre 6.
Ah, M. Mon Dieu! J'entends tout croche. Oui, c'est des systèmes. Ben,
par exemple, pour concrétiser ça, là, on avait les parcs et espaces verts.
Oui, très
bien. On avait la mobilité active, les milieux de vie, le développement économique, puis l'architecture et paysage. Okay. Chacun de ces thèmes-là avait comme 4 axe de priorité. Mettons comme dans... Il y avait la résidentielle, c'est ma feuille, je n'ai pas tourné, mais il y avait la résidentielle aussi, la problématique résidentielle. Puis là, maintenant, on disait dans le résidentiel, ben faut-il aller dans le développement de logement? Est-ce qu'on va aller dans un autre axe? Puis on faisait statuer les gens là-dessus. C'est que vous en pensez, vous autres. Mm-hmm. Puis là, on a dégagé des orientations dans chacun de ces systèmes-là qui vont nous aider à rédiger notre plan d'urbe et notre réglementation qui va en découler. Puis après ça, ben on pense que la population pourrait adhérer encore mieux à notre affaire parce que quelque part, ils vont l'avoir, ils vont s'être mis à la partie, ils vont l'avoir influencé. Puis quand tu travailles à élaborer quelque chose, ben tu y tiens puis tu adhères un peu plus.
Puis là-dedans, là, quand on... Moi, je trouve que c'est une excellente idée de consulter, mais j'imagine qu'il faut aussi avoir une espèce de vision d'avenir, tu sais, de dire, là, pour pas pour vous, là, mais pour vos enfants dans 30 ans, je sais pas, est-ce que vous utilisez beaucoup la science pour voir ce qui s'en vient, pour faire, tu sais, j'imagine que oui.
J'arrête quoi là-dessus, c'est qu'on est élaboré, parce que tout évolue.
Oui.
Tout évolue dans le temps. Il y a des choses qu'on voit aujourd'hui qu'on ne voyait pas il y a 10 ans, mm-hmm. puis d'autres choses qu'il y a 20 ans. Et puis, on doit s'adapter en urbanisme, on doit même projeter pour les prochaines années. Puis notre plan d'urbe, moi, je me suis occupé d'arriver avec des termes où on a fait des réflexions. D'ailleurs, le 19 de février, on rencontrait le conseil pour le faire statuer, vous dire, regarde, voici certaines problématiques qu'on ne vivait pas avant et qu'on vit aujourd'hui. On s'oriente comment avec ça? Travailleurs étrangers.
Oui.
Bon, ça en est un. Là, j'ai eu une mémoire. Je vais essayer de trouver tous mes thèmes où on a fait ça. Ensuite, les UHA.
UHA. Oh,
je ne sais pas c'est quoi. D'habitation.
Accessoires à l'habitation. Ah. Dans le fond, c'est des unités de logement supplémentaires dans une maison existante.
Ah, OK.
Ça peut être un logement au sol, une annexe sur le côté ou même un pavillon d'invité dans la cour.
Quand on aborde ce thème-là, on a un grand thème dans notre plan d'urbanisme qui s'en vient, qui va s'appeler la densification douce.
Oui.
C'est le gouvernement du Québec qui nous opte à tirer vers ce sens-là. C'est pour nous rentabiliser. Tout ce qui est de terrain vacant au centre-ville, mm-hmm. Le gouvernement vient de modifier sa loi puis va donner plus de pouvoir aux villes pour agir en fonction des terrains vacants. Bon, on va pouvoir taxer plus. Le terrain vacant, on va le taxer plus pour forcer le propriétaire à construire ou vendre à quelqu'un qui va construire pour rentabiliser nos réseaux, autant nos réseaux routiers que nos réseaux d'aqueduc et d'égout.
Parce que ça aussi, l'objectif, c'est d'arrêter l'étalement urbain, là, parce qu'on est rendu loin. Là.
Souvent, les gens ont tendance à penser que justement, vu qu'on n'a pas de grande ville dans la région, les gens disent « Ah, l'étalement urbain, c'est juste à Montréal. » Mais non, il y en a. Il y en a ici, les réseaux d'aqueduc et d'égout sont extrêmement étendus à Dolbeau-Missassigny, à Normandin, à Saint-Félicien. C'est,
moi, j'ai grandi à Vauvert, là, quand j'allais au cégep, ça me prenait une heure matin et soir. Là. C'est pas à côté, là, même si on a l'impression que c'est proche. Là.
Non, puis ça, puis ces populations-là, même s'ils font un choix résidentiel individuel, de dire « moi, je vais aller m'établir là puisque je veux avoir cette qualité de vie-là, mais je veux avoir les services, poubelles, aqueduc. »
Les gens veulent tout,
j'ai des enfants, je veux l'autobus. Ouais. Après ça, là, tranquillement, pas vite, mais aussi, il y a des aspects de transport collectif en milieu rural. Il faut essayer de développer ça aussi. Puis en s'étendant partout sur le territoire, c'est sûr que c'est dur de desservir avec une ligne de bus ou une desserte efficace. Donc là, se concentrer dans les pôles villageois. Mais là, c'est là que là, on peut desservir plus facilement la population en service.
Oui.
Ouais, si je continue dans les thèmes, j'étais à élaborer les thèmes où on a fait statuer le conseil, les nouveaux thèmes pour être avant-gardistes, les mini-maisons.
Ben oui.
OK. Les projets intégrés. C'est un projet intégré, c'est que sur un grand terrain, au lieu de diviser tout le terrain, mettre 5-10 bâtisses, mais tu peux avoir plusieurs bâtiments sur un même terrain. Mm-hmm. On parle encore de densification douce.
Ben oui.
Ensuite, la requalification des édifices religieux. On sait que c'est en chute.
Bien,
on
absolument.
Fait quoi avec nos édifices? Comment on va gérer la requalification des éoliennes domestiques, des éoliennes commerciales, l'énergie solaire, qui est en développement à grande.
Oui, j'espère.
Ensuite, la pollution lumineuse. Ça, la MRC a amorcé un gros projet à l'automne, en 2023 là-dessus, avec le
Bien, je pense que les serres toundra nous ont obligés à prendre des mesures. Hein?
Je cherchais le terme. C'est juste là, le choc des serres toundra a provoqué ça. Donc, la MRC s'est mise de l'avant. On a un projet de règlement monté là-dedans.
Okay.
Et puis, ça devrait avoir le jour, ça va être un règlement régional, donc ça va s'appliquer sur tout le territoire de la MRC, un peu comme l'école porteur, vendeur itinérant, les nuisances, ces affaires-là. Ce sont des règlements qui s'appliquent sur tout le territoire. Ensuite, de ça, ce qu'on a de nouveau aussi, le règlement de démolition. On a beaucoup de choses qui sont imposées par le gouvernement provincial, okay. Ça arrive par le ministère des Affaires municipales. Le règlement de démolition est obligatoire, on a dû l'adopter l'an dernier, qui va gérer la démolition d'immeubles, puis la requalification du terrain aussi. S'il n'y a pas de bâtiment, il va se passer quoi, là? Pas juste un champ de sable. Ouais. Puis le règlement de démolition, lui, il force la MRC, d'ici 5 ans, à monter un inventaire de tous les bâtiments de son territoire qui sont plus vieux que 1940, et de les catégoriser, puis dire, j'en ai un inventaire de X, je vais en avoir 100, 200, 300, 1000. Bon, sur sa quantité-là, on va dire, il y en a, je ne sais pas moi, 20 à Dolbeau-Mistassini qu'on va protéger, puis là, ils vont être listés dans le règlement de démolition. Ça, c'est un outil qui est nouveau,
okay.
Qui est intéressant. Ensuite, les logements sociaux et abordables,
c'est
un autre thème nouveau.
Ouais.
Le CIUS qui arrive avec ses thèmes aussi dans le vieillissement de la population, le vieillissement en santé, leur thème qui s'appelle, là, les changements climatiques.
Donc, on est dedans, puis tout ça est interrelié à quelque part, là.
C'est ça. Donc, ce sont tous des thèmes qu'on a discutés avec le Conseil. Il y a des discussions qui ne sont pas terminées encore là-dessus, parce qu'on est en élaboration du plan d'urbanisme. Les premiers jeunes, plan d'urbanisme, en passant, on dit plan, mais ce n'est pas un dessin. C'est un texte, le plan d'urbanisme.
Non, mais c'est bon de le préciser.
Ouais. Puis, il est accompagné d'un plan, souvent, qui va être sur l'utilisation du territoire, là. Mais dans le plan d'urbanisme, on va aborder tous ces thèmes-là, puis on s'en va où avec ça? Fait que là, on va avoir des tendances, on va dégager des orientations là-dedans, qui va permettre par la suite de rédiger une batterie de règlements d'urbanisme qui s'appelle zonage, lotissement, construction, ces choses-là, mais qu'eux autres, ils vont refléter tes orientations dans tes réflexions pour la gestion du territoire. J'essaie de mettre ça le plus simple possible.
Non, mais ça reste complexe, là. Puis je pense que les gens comprennent, mais des fois, ça doit être difficile quand même, tu sais, dans le sens où, tu le disais tantôt, le monde, ils veulent avoir tous les services, ils veulent avoir tout, mais la réalité avec les analyses scientifiques, des fois, on va se dire, ouais, mais là, tu as besoin de 2 arénas de Dolbeau-Mistassini. Là, je sais que je soulève quelque chose qu'on ne veut pas parler. On n'en parlera pas, mais on est en droit de se poser ces questions-là. Parce que la personne, elle peut bien dire, c'est un peu. Regarde, je vais donner l'exemple des guichets automatiques. Là, ils sont tout en train de fermer des jardins, des points de service. Mais quand on regarde leurs statistiques, puis là, tu as 1% d'utilisation, tu fais, je les comprends. Maintenant, le pourcent qui veut l'utiliser, je comprends aussi, mais on ne peut pas tout avoir. Non? Comment vous développez ça, vous faites de la vulgarisation pour la population, en fait?
Ça dépend à qui on pose la question, parce que si on pose la question à un ingénieur, il va trouver une solution technique pour fournir le service. Mais c'est là que je pense que le professionnel en urbanisme a sa place, c'est que c'est le maillon, le lien en toutes les disciplines économiques, juridiques, parce qu'on applique la réglementation qui est très très normée. Là. On parle de langage juridique. Après ça, l'environnement, Alain a parlé de plein de choses, l'habitation, le social. Donc, l'urbanisme a un peu une vue d'ensemble de tous ces enjeux-là. Donc, dans ses interventions, dans ce qu'il va proposer, mais il va essayer de tenir en compte tout ça, puis de faire un équilibre, puis d'avoir aussi, des fois, avoir une vision du territoire dans son ensemble, comme ici à Dolbeau-Mistassini. On a 2 villes, en fait. On a Mistassini, on a Dolbeau.
Mais là, puis Sainte-Marguerite.
Mais c'est ça, puis en périmètre urbain, on a un autre périmètre urbain à Sainte-Marguerite.
Ouais.
Mais aussi, on a d'autres types de zones autour, on a des zones de villégiature.
Sainte-Élisabeth, tu sais, c'est...
Mais Alain aussi a mentionné la MRC. La MRC, c'est un territoire de 12 municipalités dans lequel, là, on ajoute un autre pôle urbain normandin et plusieurs petits pôles villageois, les autres municipalités. Mais là, c'est de se donner une vision d'ensemble sur tout ce territoire-là. Justement, là, on parlait d'aréna. Est-ce que chaque municipalité doit avoir son aréna? Des fois, ces municipalités-là partagent les écoles. Justement, tu sais, il y a des partages à faire ensemble. Donc, souvent, ces compromis-là doivent être réfléchis sur une échelle territoriale différente.
Mais je le comprends bien qu'on se fasse un plan qui est régi par des normes, par des études, etc. Mais comment on fait adhérer la population à ce plan-là, M. Manu?
Ça, c'est une bonne question.
Non, parce que c'est là le nerf de la guerre, selon moi.
Je pense que la ville de Dolbeau-Mistassini a eu une bonne approche. On appelle ça l'urbanisme participatif.
OK.
Donc ça, on va un peu plus loin que ce qui est exigé dans la loi. Parce que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, comme Alain l'a mentionné tantôt, quand on modifie un règlement d'urbanisme, Il y a des consultations qui sont obligatoires. Donc, puis il y a la fameuse approbation référendaire. C'est des processus qui sont insérés dans la loi, mais qui sont très, on pourrait dire, très carrés. Très, très peu, très peu, quand même complexe. Là, on parle des avis dans le journal qui décrivent, on modifie une zone avec un numéro X pour l'agrandir sur l'autre zone qu'un numéro Y. C'est un peu, c'est nébuleux. Mais c'est pour ça que, finalement, la séance, souvent, il y a peu de gens. Mais là, ce que les municipalités développent, puis qui ont maintenant le pouvoir, certaines municipalités maintenant adoptent des politiques de participation citoyenne qui peuvent se substituer, dans le fond, au processus classique d'approbation référendaire. Donc, on met fin au référendum, mais en contrepartie, on met sur place des processus beaucoup plus complets puis beaucoup plus adaptés justement pour vraiment aller chercher...
Être à l'écoute de la population.
À l'écoute de la population. Ouais. Alain l'a mentionné tantôt, aller à des événements où est-ce que la population va déjà.
Oui.
Et là, c'est facile d'avoir un achalandage puis de leur poser la question, aller dans les écoles, aller sur place, développer des outils un peu plus ludiques pour vraiment avoir le pouls de la population. Puis justement, la ville de Dolbeau l'a fait. Puis c'est une tendance, les municipalités s'en vont vers là tranquillement, pas vite.
Puis là, moi, je suis désagréable qui pose les questions, là. Mais c'est bien beau aller dans les événements, mais ici, mettons, je vais au Festival des Brasseurs, je vais, bon, peu importe les événements, j'ai pas le danger de retrouver sensiblement toujours le même monde, puis j'ai besoin aussi de parler au monsieur qui, lui, sort pas, va pas dans les événements, puis qui, lui aussi, vit dans la municipalité, je sais pas, c'est-tu plus difficile, ces gens-là?
Nous, on a prévu la consultation, on a dit, on va aller vers les gens. Parce que normalement, la loi t'oblige à consulter. Puis t'oblige à consulter si tu fais ça à l'hôtel de ville. Voici l'invitation.
Non, ça ne marchera pas, c'est sûr.
Bon, ça marche plus ou moins. Donc, on a prévu ça en trois volets. J'en ai parlé deux tantôt. Bien, on a visé le monde des affaires ou le monde, les promoteurs des affaires-là, dans un café-causerie. Mm-hmm. On était là à Court-Sucré-Salé. Là, on a visé les familles.
Okay.
On avait des jeunes familles. On a eu du 25-35 en masse. Et puis, on s'est dit, on va viser la population en général. On a fait un genre de... on s'est créé un petit... Il y avait une consultation sur Internet, là.
OK.
On l'a publié sur le site de la ville. Les gens pouvaient répondre à ce même sondage-là sur Internet. On a eu quand même une bonne participation. Au total, je vous dirais, pour donner des chiffres un peu, les trois consultations, on a ramassé plus de 300. 300 personnes ont répondu.
C'est beaucoup
parce que si vous faites une consultation publique conventionnelle à l'hôtel de ville, là, si tu en as 10, t'es bien content.
Non, c'est ça.
Fait que là, on a eu 300 qui nous a permis de dégager, comme en mobilité active. La mobilité active, on comprend que les familles, là, d'abord, la mobilité active, là, ça recoupe aussi le déplacement à vélo. Là, on a une grosse faiblesse à Dolbeau-Mistassini en déplacement à vélo. Parce que le déplacement à vélo, tu peux en viser deux. Tu as le vélo tourisme, mais tu as le vélo d'affaires ou le vélo de la personne qui va aller travailler en vélo.
Le travail, mais on y va en vélo.
On n'est pas loin du 0 sur 10 là-dessus.
Ah oui, OK.
Ben oui, parce qu'on n'a pas de piste cyclable qui est fonctionnelle.
Non, puis les études sont claires. Plus tu as de piste cyclable, plus tu as de gens qui vont
au niveau tourisme, avec la véloroute, là, on commence à être sur la coche là-dessus. Boucle le lac Saint-Jean. Il y a des sous-boucles un petit peu, mais on est dans le vélo tourisme, on pourrait dire. Fait que là, je vous donne un exemple.
Oui, c'est un très bon exemple.
Là, la population, nous l'ont soulevé, ça,
dans
les sondages, ces affaires-là. En habitation, ils ont donné leur opinion sur le logement accessoire qu'on appelait tantôt.
Oui.
Puis nous, on est en train de développer les trois volets du logement accessoire. Actuellement, dans la réglementation de Dolbeau-Mistassini, la première catégorie dans le logement accessoire ou l'unité d'habitation accessoire, c'est dans la maison seulement. C'est un logement complémentaire. Un petit logement qui va être créé, qui va avoir une complicité avec le logement principal. Souvent, c'est de la famille, tu vois, ton parent, ta soeur, une personne qui est handicapée ou autre. Puis les deux autres volets là-dedans, ce serait nouveau pour nous autres, on veut se rendre probablement jusque-là, d'avoir soit une construction adjacente à la maison qui pourrait s'enlever, se détacher un peu comme un garage, un bâtiment accessoire, ou au-dessus du garage. Puis tu as même le bâtiment accessoire détaché. Tu pourrais faire ça comme un garage dans le fond de la cour.
Mais il reste qu'il y a des normes. Tu sais, moi, par exemple, chez nous, j'ai beau avoir 45 000 pieds de terrain, comme son zone agricole, je ne peux pas construire un...
On arrive avec l'histoire du zone agricole, on monte d'une coche.
Ouais, c'est un exemple que je peux donner. Ce n'est pas que je vais en parler nécessairement.
Ouais. En passant, en urbanisme, on vit les influences de plusieurs ministères, je dirais. On a le gouvernement du Québec qui, lui, envoie de ses grandes lignes à ses ministères. Mais juste le ministère de l'Environnement, au cours des 20 dernières années, on a fait des grands pas là-dedans.
Les milieux humides. Milieux humides, ben oui, ça c'était une aberration, en fait. Là.
Les zones de contrainte, mouvement de sol, inondation. Ouais. Le gouvernement en inondation renforce ses critères là-dessus. Les villes sont tannées. Les compagnies d'assurance sont fatiguées de payer.
Ben oui.
J'ai entendu la semaine dernière dans les médias que la seule institution financière qui finançait encore des résidences dans les zones 0-20, là, c'est encore un vocabulaire,
ouais,
c'est la pire couche d'un milieu.
Ben oui, c'est ça.
C'est les pires, là. Dans le 0-20, tu peux te faire inonder tous les 2-3 ans.
Oui, c'est ça.
Puis là, la seule institution financière qui prêtait là-dedans, c'était Desjardins. Puis ils ont mis fin le 1er février.
Oui, c'est ça.
Fait que là, ça vient encore mettre du stress aux gens qui ont décidé.
Ben, en fait, c'est qu'on n'aurait jamais dû développer ces milieux-là, là, autant pour l'environnement. Mais la problématique, c'est que les municipalités, leur seule source de revenus, c'est les taxes. Fait qu'ils veulent se développer. Puis souvent, les milieux humides, c'est des belles places, c'est sous bord de l'eau. Fait que moi, je comprends. Je pense qu'on a manqué beaucoup d'éducation collective à ce niveau-là, je sais pas. T'en penses quoi, Pierre-Luc?
De connaissance.
De connaissance.
De connaissance. Je pense qu'au moment où est-ce qu'ils ont construit, c'est beaucoup en villégiature, c'est beaucoup les cœurs villageois proches des cours d'eau. Les gens n'avaient pas à l'esprit, justement, la notion d'espace de liberté du cours d'eau. Est-ce que le cours d'eau, c'est quelque chose de vivant puis de dynamique? Mais éventuellement, les cours d'eau sans contrainte, ils font des méandres, là, tu sais, puis à un moment donné, ils en laissent un, ils s'en vont ailleurs, puis c'est comme ils ont créé le territoire.
Ce qu'on voit aussi, c'est que les gens s'achètent, mettons, des terrains, moi j'ai mis 8, puis là, ils vont couper les arbres, ça va faire une belle vue quand les arbres, ça les aiderait à garder, là, tu sais. Fait que des fois, je pense que, vous savez, au niveau de la connaissance, on a manqué.
Parce qu'on ne savait juste pas, puis aussi, Alain l'a mentionné, le changement climatique, c'est le contexte climatique est tout autre. Puis justement, ces événements-là d'inondation apparaissent de plus en plus. Donc là, il faut les gérer. Puis les cartes, en fait, ce que le gouvernement fait actuellement, c'est une mise à jour des cartes. On travaille encore dans certaines MRC, dans certaines municipalités, avec des vieilles cartes.
OK.
Et là, ben, c'est ça, là, c'est, on parle de connaissances, on ne le sait pas. Mais là, c'est une donnée extrêmement sensible à savoir est-ce que votre résidence est dans la zone 0-20 ans.
Oui, puis là,
donc,
les
ça,
gens
c'est une inondation
là,
à tous les 20 ans, mais en fait, c'est annuellement. C'est une chance sur 20 d'avoir une inondation, donc c'est 5 % de chance à chaque année. Okay. C'est pas une inondation aux 20 ans que comme.
Oui, je comprends. Oui.
Puis, j'allais dire tantôt, on disait le gouvernement du Québec, lui, il va pousser dans ses ministères différentes problématiques ou des choses qu'ils veulent corriger. Puis on peut mettre un mot là-dessus, on appelle ça les OGAT.
Les OGAT?
Les orientations gouvernementales en aménagement du territoire.
OK.
Et le gouvernement a justement révisé au cours. Ils ont commencé en 1994 avec ça. Et la première mouture était en 1994 et ils viennent de réviser. Ils sont arrivés l'an dernier, en juin, ont sorti une version quasiment finale en consultation. Et puis à l'automne dernier, ça a été pas mal fixé. Okay. Ces orientations gouvernementales-là, en aménagement de territoire, sont poussées vers les MRC, qui eux autres doivent réviser leur réglementation. C'est un gouvernement, la MRC est un gouvernement supérieur, supraministère.
Ouais.
Et puis, ces orientations gouvernementales-là doivent être intégrées dans les schémas d'aménagement. C'est la réglementation de la MRC. Une fois que ça sera fait, on a 2 ans, nous autres, les municipalités, pour s'y conformer.
Là, vous me dites qu'on a commencé à faire ça en 94?
Ouais.
Puis là, ça vit. C'est, on
ah,
est là.
Ça, non, ça, non. Ça a été fait plusieurs fois.
OK, plusieurs fois. Ça, j'étais là. Parfait, ça me rassure.
Je relativiserais aussi la réglementation à Dolbeau. Alain disait que ça n'a été pas fait depuis 15 ans, mais ça a été. C'est des documents qui sont assez dynamiques aussi. Il y a des modifications, des ajouts qui sont faits.
Oui, c'est donc, ça. Mais il n'y a pas de refonte.
Là, on parle d'un exercice complet de refonte, mais les règlements de la ville de Dolbeau-Mistassini ont été actualisés.
Ouais. À la Turcotte, peut-être, pour préciser, les orientations gouvernementales de 1994,
ouais.
Avant que, en tout cas, le schéma d'aménagement de la MRC a été finalisé, je pense, en 2007, non, suite à ça. C'est quand même un long mouvement. Puis nous autres, Dolbeau-Mistassini, on a révisé notre réglementation suite à ça en 2010.
Oui. Ouais. Mais ça reste quand même que des fois, je comprends que ça prend du temps là, de faire ça, mais des fois, entre 1994 puis mettons 2010, c'est 2007. Passé.
Ouais, oui,
c'est, il se passe du temps, fait que des fois, j'ai l'impression qu'on serait dû pour recommencer à ce niveau-là.
Mais entre 1994 puis 2010, ils ont eu. Il y a un...
des amendements.
C'est ça, il y a eu des amendements, il y a eu des nouvelles orientations qui ont été données. Puis pour peut-être compléter ce qu'Alain a dit, je vous mettrai peut-être une image en tête là, par rapport à comment le système d'aménagement de territoire fonctionne au Québec. Moi, je le vois comme un entonnoir.
OK.
Donc, en haut, on a les OGAP, les orientations gouvernementales en aménagement de territoire, qui sont générales, tu sais, qui visent l'ensemble du territoire du Québec. Territoire. Donc là, c'est là qu'on a les grandes orientations très larges de qu'est-ce qu'on veut, comment on veut aménager le territoire. Donc là, après ça, ça descend dans les MRC. Il y en a 78 au Québec de mémoire. Ici, dans la région, il y en a 4. Ville-Saguenay est une ville MRC. Oui. Donc, c'est un palier de gouvernement. Donc là, la MRC, elle, doit adopter un schéma d'aménagement. Un schéma, des fois, on en entend parler. Dans le fond, un schéma, c'est un document comme le plan d'urbanisme. C'est un plan d'urbanisme, mais pour la MRC. Donc là, portrait du territoire, grandes orientations, objectifs qui se déclinent en affectations. Donc, les affectations, c'est un zonage un peu grossier, là, avec des gros morceaux. Puis on dit à peu près là, c'est affectation forestière, agricole, urbaine.
Fait que ça va être plus spécifique. Parce que...
Oui, puis là, plus on descend, plus le niveau de détail, plus on est précis. Donc là, on est vraiment territoire MRC. Là, on va tomber au palier de la municipalité ou de la ville de Dolbeau-Mistassini qui, elle, adopte son plan d'urbe,
d'urbanisme. Vous avez le pouvoir là, de le faire, là.
C'est tout. On est toujours plus précis, mais il faut être conforme.
Ouais, mais moi mon questionnement, là, des fois, je trouve ça un peu particulier. T'sais, les OGAT, je comprends, mais c'est comme de dire on a tout un peu le même territoire. T'sais, on met les mêmes règles pour tout le monde.
Ouais,
mais moi, ça, fondamentalement, je trouve ça débile. Je sais
pas
si c'est.
Mais c'est là
où les autres paliers vont venir préciser.
C'est là qu'à la MRC, dans son schéma, va édicter justement des orientations, des objectifs adaptés à son territoire. Avec le document complémentaire, va mettre des normes.
Les OGAT vous donnent la flexibilité quand même d'adapter ces réglementations au territoire que vous avez.
Je vais reprendre l'expression de Pierre-Luc, l'entonnoir.
Okay? Ouais.
Mais l'entonnoir, les OGAT partent en haut, on va vers les schémas d'aménagement. C'est que les schémas d'aménagement doivent être conformes aux OGAT, mais ils peuvent être plus précis. Ils vont être plus sévères un peu, ils vont s'adapter au territoire. Le territoire de la MRC Marie-Chapdelaine, on a 4 grandes rivières peu près. On a un territoire forestier énorme, ces affaires-là. Fait que le schéma d'aménagement de la MRC va s'imprégner de son territoire tout en se conformant aux OGAT. Puis la même chose se fait au niveau de la ville de Dolbeau-Mistassini.
Ouais.
Là, on va être plus précis, on tombe au niveau de la ville. On a, c'est quoi qu'on a sur notre territoire? On a on a 2 noyaux de ville séparés par des rivières. Ouais. On a de l'érosion à certains endroits, des mouvements de sol. Donc, on va aller être des fois plus sévère que la MRC à certains endroits, mais jamais moins.
Jamais moins, non?
Puis la MRC sera jamais moins qu'en haut. Donc, on va y aller, on va se préciser parce qu'on s'en va en épousant le territoire, si on peut dire. Le gars de la Gaspésie, lui, il va partir des OGAT, le chemin d'aménagement du secteur, mais il va y aller avec ce qu'il y a comme réalité.
Mais ça me rassure, parce que des fois, on voit beaucoup d'orientation gouvernementale qui c'est un peu du mur à mur, puis des fois, c'est pas adaptable de la même manière, mais là ça semble bien ça. C'est quoi les défis d'urbanisme pour notre secteur?
Dévitalisation commerciale.
Dévitalisation commerciale?
Oui, que ce soit dans les centres-villes ou dans les petites municipalités, c'est dur de garder les services de base.
OK. Puis ça, on retrouve ça partout quand même. Y a-t-il des... Non, mais dans le sens où c'est une problématique qui est de société, là, depuis...
De société, mais je vous dirais que dans le secteur du Haut-du-Lac, il y a des enjeux qu'on n'a pas ailleurs au Québec. Si je prends juste la population de Marie-Chapdelaine, si on prend les 5 municipalités qui longent la route 169, ça représente de mémoire 75% de la population de la MRC. Donc, en dehors des axes routiers, c'est plus dur. Même chose, puis admettons, si on prend Domaine-du-Roi a l'avantage d'être traversé par la 169, on a l'arrivée de la 155, puis on a la 167 qui va vers Chibougamau. Mm-hmm. Donc, on a un territoire qui est... où est-ce que, dans le fond, ces routes-là représentent un achalandage de plus. Donc, pour conserver un dépanneur, mais c'est plus facile, une station station essence. Mais dans un village où est-ce qu'il n'y a plus de dépanneur, plus de station essence, pas de garderie... C'est pour ça, je vous dirais qu'il y a un contexte ici qui est là, puis il faut trouver des façons de le développer. Des fois, c'est avec le tourisme, dans le fond, avec le tourisme, avec une saison touristique estivale et hivernale, qu'on peut aller se donner des services dans des plus petits centres. Il faut le réfléchir, puis cette station essence-là, est-ce qu'on la met le long de la traque de skidoo ou on la met dans le village pour justement se dire, ce service-là, on se le donne à nous aussi.
Tout le monde.
C'est là que la pensée urbanistique embarque. Là.
Puis il faut quand même penser aussi à long terme. On va-tu encore faire du skidoo dans 20 ans?
C'est ça.
Non, je ne sais pas.
Ça fait partie du changement climatique, ça.
Ben oui, oui, absolument.
C'est un volet que j'ai parlé tantôt.
Ouais, ouais.
Mais ce que je pourrais donner comme précision supplémentaire, c'est qu'un des défis en urbanisme pour Dolbeau-Mistassini, on va parler de Dolbeau-Mistassini, oui, peut-être de la MRC en même temps, on est situé au nord du lac.
Ouais.
On est une région, à quelque part, on a démêlé ça dernièrement, on est éloigné, on l'a petit pas pour essayer de se classifier. Ouais. Et notre MRC a réussi à aller chercher... Dernièrement, on s'est classifié comme région éloignée, puis ça a bonifié aussi les aides gouvernementales. Ça amène des enjeux aussi au niveau municipal. On est au nord du lac, on est la troisième ville, de Dolbeau-Mistassini, la troisième ville en importance au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais on ne l'entend pas souvent.
Mais non.
Donc, oui, dans le plan dur, on veut essayer de prendre notre place là-dedans. C'est bien beau Normandin, c'est bien beau Saint-Félicien, c'est bien beau, mais si on ne tient pas compte de tenir notre ville principale en place, puis donner ses services puis ses pouvoirs, bien, on va s'effriter avec le temps, puis on va prendre notre place. Ouais. Ça, c'est important, c'est un enjeu. Lorsque je commençais à travailler pour la ville, il y a quelques décennies, c'était un enjeu de garder, que Dolbeau-Mistassini garde son pôle commercial, puis c'est encore un enjeu aujourd'hui.
Oui, mais l'enjeu des pôles commerciaux, c'est beaucoup partout, là, on le voit. Bien, en fait, le commerce en ligne, les multinationales, qu'on je nommerai pas pour le faire de publicité.
Non, sinon, les enjeux en urbanisme, en fait, moi, je trouve que l'urbanisme, c'est un des champs de pratique que moi, je dirais, parmi les plus importants pour intervenir en matière de changement climatique, d'adaptation au changement climatique. Parce que là, on parle de réduire notre empreinte sur le territoire, des communautés moins étalées, prennent moins de place sur l'environnement. Donc là, on peut penser que nos milieux humides sont moins affectés, les terres agricoles sont consacrées à la culture. C'est des milieux récepteurs qui peuvent absorber l'eau de pluie. Donc là, déjà là, d'un aspect de résilience aux inondations, on est déjà plus résilient. Mais aussi la cohésion sociale.
Ouais.
Les habitants des rangs... Puis là, je vais aller peut-être plus à Saguenay. Les premiers rangs à Saint-Honoré, au nord de la ville de Saguenay, ces gens-là travaillent à Saguenay, font leur épicerie à Saguenay. Ils ne vont jamais au village à Saint-Honoré. Oui. Donc, en termes de cohésion sociale, eux, ils se sentent probablement plus saguenéens que saint-honoriens.
Ouais.
Donc là, quand on parle d'entraide, s'il arrive un événement dans une communauté, souvent, c'est ça qui est souligné, c'est l'entraide entre les habitants. Mm-hmm. Mais si les gens ne se connaissent pas, ils ne sont pas à proximité, ils ne se sentent pas interpellés. Donc là, je me projette, mais tu sais, achat local, entraide en cas d'inondation, bien, une communauté tissée serrée, ça va être beaucoup plus résilient d'un point de vue social qu'une communauté étalée, que tout le monde fait son épicerie ailleurs.
Ça, je trouve que c'est un des plus gros problèmes. Là. C'est que le monde sont prêts à... Pour économiser 20$, ils vont mettre 50$ de gaz dans leur char, aller manger au restaurant pour aller faire leurs épiceries au Costco. Là. Moi, ça me fait capoter. Pour économiser au bout du compte, je sais pas. Mais on a tellement... Puis si tout le monde, je sais pas si je me trompe, mais si tout le monde se mettait à dépenser, on aurait plus de diversité, on aurait des coûts moins chers, on aurait que des avantages. Mais on dirait que l'individu prend toujours le dessus sur le collectif.
Oui, mais je vous dirais que justement, si j'en reviens à mon impératif de concentrer les gens... Dans le jargon, on appelle ça les périmètres urbains. Là.
Ouais.
Donc, ça, c'est vraiment c'est le village, c'est le cœur du village. Si ces gens-là habitent tout à proximité puis qu'il y a un dépanneur, aller acheter une pinte de lait quand on habite à Albanel, qui n'a présentement pas d'épicerie, une pinte de lait, au lieu d'aller à Normandin ou à Dolbeau, s'il y a un dépanneur qui l'offre à proximité, ils vont y aller. Ouais. Puis là, tranquillement, pas vite, le réflexe se développe. Parce qu'ils habitent à côté, mais s'ils habitent dans le rang nord à Saint-Albanel, qui était entre les deux, là, tu n'as pas le choix de prendre ton char de toute façon. Je vais aller dans le grand centre, je vais avoir plus de choix. Mais si on dit qu'on habite déjà proche, réflexes comme ça.
Je suis d'accord avec toi, mais il reste que pendant longtemps, c'est pas comme ça qu'on a réfléchi. On a abandonné les centres-villes pour développer Vauvert. J'habitais là, je sais qu'on était d'un premier là-bas, où on va développer, moi, à Saint-Gédéon, je veux dire, on développe plus le village, là, on développe le rang des îles. Mais donc, on s'étend plutôt que de se ramasser puis d'arriver à un esprit de communauté. Me trompes-tu?
Oui, exactement. Puis aussi pour... tantôt, on parlait de comment revitaliser tes noyaux urbains, ces affaires-là, l'achat local, les gens devraient consommer. On a l'Internet qui fait consommer les gens. Mais au-delà de ça, je vais vous amener d'une autre dimension. Oui, c'est que quand un, Lorsque tu as un noyau urbain comme Dolbeau-Missassigny, qui est la troisième ville au sein de l'Action, je le répète,
oui.
Et puis qui est sa ville principale dans la MRC, elle n'a pas juste un rôle commercial, elle a un rôle de service.
Oui.
L'hôpital, CLSC, les services gouvernementaux qu'on trouve dans Galerie des Érables. Oui. Mm-hmm. Puis si tu effrites ton noyau commercial, va donner moins d'importance à ta municipalité, tu peux amener perdre ces services. On en a perdu avec le temps, je ne les énumérerai pas, mais on a perdu quelques-uns. Ça, c'est très important de garder ces services-là parce que ça, à quelque part, ça accroche nos gens à la communauté, comme on disait tantôt. Si à un moment donné, t'as moins de soins à l'hôpital, ton CLSC perd de l'ampleur, tes services Canada ne sont plus là ou presque plus, ça fait une communauté moins intéressante. Là, c'est là que tu te ramasses que tu as juste du commercial, puis à un moment donné, le commercial s'effrite. On voit les petits villages là, qui ont perdu les caisses populaires, perdent les bureaux de poste, perdent le dépanneur, perdent à un moment donné, c'est quoi ta raison d'être dans le petit village? Là.
C'est ça.
Mais Dolbeau-Missassigny est une grosse ville dans la MRC Maria-Chapdelaine, mais il faut surtout pas, il faut faire attention à ce qu'on ait une consolidation des 12 municipalités pour dire qu'on reconnaît notre grosse ville, on va la supporter. Puis une fois que cette ville-là est supportée, elle peut aider les petits autour à s'en sortir là-dedans dans leur dévitalisation. C'est de même que je vois la mécanique, le défi avec le temps.
Ben oui.
Puis si on ne s'en va pas vers là, ben je t'inquiète, ça m'inquiète pour le milieu.
Ben absolument. Puis des fois, avez-vous l'impression que des fois, on réagit au lieu d'agir? Dans le sens où, tu sais, la pyramide inversée qui nous dit qu'on va manquer de main-d'œuvre, on la connaît depuis les années 80. On le sait que dans ces années-là, ça va arriver. Là, on réussit à tenter d'attirer des gens, des petites familles, des fois des étrangers, etc., qui vont venir. Mais là, on est dans la paupérisation, parce que là, on n'a pas de logement, on n'a pas de garderie, on n'a pas... comme si on travaillait à l'envers. Mais ça, si on l'avait vu venir, on aurait pu développer autrement, ou finalement, à cause du politique qui est réélu aux 4 ans, ça fait que c'est un peu impossible dans votre métier de pouvoir vraiment avoir des visions à très long terme. Je ne sais pas si c'est clair, ma question.
Ouais. On l'a tellement pas vu venir, ça. Je vous rappelle, moi, j'ai assisté à la révision du plan d'urbe une fois qu'on a regroupé les deux villes, Dolbeau-Missassigny. On a dit, là, on a une autre dynamique, on n'est plus en compétition, on va être en complémentarité. Et puis, je me rappelle, puis on pourra ressortir le plan d'urbe, il est encore en vigueur, parce que l'autre n'est pas réglé de nouveau.
Okay.
Puis, dans ce vieux plan d'urbe-là, on disait, on est en dévitalisation, on a regardé les statistiques de population, de développement. Faut pas trop développer de terrain, parce que là, on va stagner, ces affaires-là. Puis,
et pourtant, on est ailleurs. Ce qui se passe en arrière du Juvénat.
On est ailleurs aujourd'hui. Il y a eu de l'investissement.
Oui.
Ouais. Je vous donne un exemple. En espoir, après ce plan d'urbe-là de 2010, dans les années 2010 à 2014, on a entré 300, je pense que c'est 300 maisons mobiles. En trois ans, 100 maisons mobiles.
Okay.
Maisons mobiles à Dolbeau-Missassigny. C'est quand même important, alors qu'on disait le développement, ça va être pas mal fini. Le visionnaire ou la boule de cristal des années 2005-2010, c'était de Dolbeau-Missassigny, il faut aller au ralenti, puis on manque de territoire, on manque de terrain, ou pas de terrain, mais de construction. C'est... aujourd'hui, on est dans la pénurie de logements.
Ben oui, absolument.
Ouais. Mais c'est des dynamiques qui sont nouvelles, puis autant dans le négatif que dans le positif, je vous dirais, je travaille sur le territoire de la MRC, puis dans les municipalités, il y a une réalité. Ils se font contacter par des gens de plus en plus de l'extérieur. Puis, tu sais, des fois, on se le dit, mais on y croit pas tant que ça. Mais il y a beaucoup de personnes de l'extérieur de la région qui viennent en région pour le coût de la propriété qui est moindre, la qualité de vie, le plein air. Puis maintenant, ils sont en mesure de travailler dans les grands centres à distance.
Mm-hmm.
Donc, il y a un apport de population important de ce côté-là. Puis dans Maria-Chapdelaine aussi, d'un point de vue immigration, vu qu'on n'a pas une démographie qui était comme ça, justement, dans le temps, on voulait pas trop qu'elle descende. Mais là, justement, dans Maria-Chapdelaine, il y a encore des services. Dolbeau, c'est un pôle de services. On parle de la centre de services scolaires,
oui.
Le CIUS, il y a plusieurs grands employeurs, Produits forestiers résolus, qui, eux, pour maintenir leur croissance ou en tout cas maintenir les services, font venir énormément de gens. Dans Maria-Chapdelaine, j'avais des chiffres en 2019 et 2022, les nouveaux arrivants, sur la proportion de la population. Puis là, c'est sûr que les chiffres que j'ai, ça recoupe pas tous les nouveaux arrivants parce que ceux qui ont déjà leur permis, les conjoints conjointes, puis les immigrants pas les évacués là,
les réfugiés.
Les réfugiés, ils sont pas comptabilisés là-dedans. Mm. Mais dans Maria-Chapdelaine, la proportion des chiffres qu'on avait pour les travailleurs étrangers temporaires puis les travailleurs agricoles saisonniers, ça représentait à peu près, là je vous dis à peu près là, c'est 2,5% de la population de la MRC. Ouais. Et si on reportait cette même population-là à l'échelle de la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean, parce qu'on serait porté à se dire, bien, la dynamique démographique dans Maria-Chapdelaine est pareille qu'ailleurs. Non. À l'échelle de la région, c'est des TET puis des TAS, là, c'est 0,5% de la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Oui.
Donc, ce que cette proportion-là dans Maria-Chapdelaine est importante. L'arrivée de gens est importante d'un point de vue économique et démographique.
Je suis d'accord.
Donc, on est vraiment là-dedans. Là.
Mais tu sais-tu si, dans ce pourcentage-là, 5 ans plus tard, est-ce qu'ils sont encore tous ici?
Quand même un bon taux de rétention. Ouais.
Parce que moi, ce que j'entends beaucoup, c'est, écoute, on veut venir, on veut travailler, il y a de la job, il n'y a pas de logement, pas de garderie. On a de la misère avec les services.
Je vous dirais que les municipalités et la MRC sont en action là-dessus.
Ouais, okay.
Puis le taux de rétention pour la période de référence que j'avais, c'était autour de 45% quand même.
OK, quand même. Ah, mais c'est quand même 1 sur 2 qui part.
Oui, mais quand même, il y a quand même...
Oui, il y a quand même 1 sur 2 qui reste. Il faut le voir ça positif, je suis d'accord. Non, mais c'est complexe. Puis ça, pour les... Moi, c'est une question là, d'urbanisme. Je ne sais pas même pas si c'est une question d'urbanisme ou je la pose, au pire, on la coupera. Tu sais, quand on a beaucoup de travailleurs étrangers, temporaires, qui vont venir, est-ce que ça ne serait pas intéressant au niveau de la collectivité de plutôt, tu sais, créer, je ne sais pas moi, un quartier Guatébaltèque d'Adolbo-Mistassini pour qu'il y ait vraiment une intégration puis qu'il fasse partie de la communauté? Parce que quand tu viens temporaire étranger, j'imagine que ça doit être dur de se sentir, d'avoir un sentiment d'appartenance. Puis si on réfléchit ça autrement, je ne sais pas, je lance l'idée. Vous
en pensez quoi, monsieur? Si on avait, mettons... Je ne sais pas combien de travailleurs étrangers qui est arrivé sur le territoire de la MRC depuis 5 ans. Mettons que ça serait 90%, c'est tout des Guatémaltèques.
Ouais.
Ce serait peut-être intéressant, mais sont diversifiés. Puis je ne sais pas si Pierre-Luc a fait la statistique là-dessus. Il y a plusieurs pays. Là.
Oui, c'est ça.
Ça doit être une dizaine de pays.
Ouais.
Ça vient de plusieurs pays.
C'est principalement Mexique, Guatemala. Ailleurs au Québec, on a plus du continent africain, mais dans la région, je vous dirais que c'est beaucoup Mexique, Guatémaltèque.
Ouais,
puis intéressant pour le Guatemala, fête la Saint-Jean.
Ouais.
C'est pas leur fête nationale, mais c'est une fête très importante pour les Guatémaltèques. Mais moi, je trouvais qu'il y aurait un mariage intéressant à faire.
Ah, bien, moi, je te le dis, là, j'ai voyagé énormément et ceux qui sont de descendance catholique romaine, là, la Saint-Jean-Baptiste, moi, j'ai fait les parades de la Saint-Jean en Italie, partout où c'est la religion catholique. Pour vrai, la Saint-Jean est une grosse fête.
mais t'as mentionné l'idée d'un quartier. Je les séparerais pas, je les mettrais...
Non, mais pas créer un nouveau quartier, mais mettons, on dit au centre-ville, il y a de la place, avec une épicerie pour... avec des produits différents. Moi, je réalise, rien que dans l'épicerie, par chez nous, là, j'ai des produits que j'avais pas il y a 20 ans, là. Puis c'est pas parce qu'on en mange plus, parce qu'il y a plus d'immigration qui fait que des gens ont besoin de tel type de piment ou tel type d'épices. Moi, je trouve que c'est dynamique. Nouvelle demande, mais c'est très stimulant pour les gens parce que c'est une belle manière de s'intégrer, de partager entre autres, de la nourriture ou de la culture. Hein. On veut que les gens prennent notre culture, mais ils ont aussi à apporter dans notre culture parce qu'ils viennent d'une culture différente.
Mais comme avec toutes les tranches de la population, que ce soit les aînés, les nouveaux arrivants, moi, je pense que de favoriser une mixité parce que dans le fond, cette mixité-là passe par le bâti. Ça prend du locatif, de quand même bien agencé, là, avec de l'unifamilial, des résidences pour aînés. Tu sais, de les mettre à proximité ou pourquoi pas faire une résidence pour aînés un petit peu plus grosse avec des étages réservés aux aînés, des étages réservés aux nouveaux arrivants avec du logement temporaire parce que souvent quand ils arrivent ici, ils n'ont pas beaucoup de possessions. Mais ça, c'est souvent on met aussi les garderies proches des résidences pour aînés pour justement faire une
belle mixité.
Mais moi, je verrais bien justement un mélange avec les Guatémaltèques pour avoir des activités avec les aînés.
Ben non, mais moi je suis pour la mixité, là.
Ouais. Mais par contre, quand on parle de travailleurs étrangers ou saisonniers, je les ai déjà, en tout cas, on a au moins deux groupes.
OK.
Tu as le premier groupe qui est le travailleur saisonnier qui arrive ici, là, il arrive de je sais pas quel pays, puis s'en vient ici travailler pour l'été. Puis souvent, c'est des entreprises qui vont les avoir dans des camps de travailleurs.
Ouais.
Donc, ça ressemble à quasiment au fly-in, fly-out qu'on fait dans le Nord aussi.
Ouais, ouais.
Ils sont ici pour ça. Fait que là, on ne parle pas des familles.
Non, non, non.
On ne parle pas des intégrés.
Travailleurs.
On essaie juste qu'on peut les garder pour l'été ou pour un an, deux ans. Ça, c'est notre premier groupe. Ça fait déjà 5 ans, je pense, okay, qu'on travaille dans celui-là. Le deuxième groupe, c'est le travailleur qui a peut-être passé par sa première phase-là. Puis il dit, ben moi, finalement, dans le boom, c'est fini.
Je n'aille pas ça.
Je pense que ma famille pourrait venir ici pour y vivre. Là, ils vont chercher un logement.
Ouais.
Puis c'est là que ça prend du logement abordable.
Ouais.
C'est là que ça prend du logement abordable.
Mais aussi la dynamique avec les serres toundra, tantôt on l'a mentionné. Maintenant, eux, ils ont des besoins à l'année. Contrairement à l'agriculture traditionnelle où est-ce que c'était juste durant l'été.
Ouais.
Donc là, on a des travailleurs qui restent plus longtemps dans le temps.
Oui.
Tu as le saisonnier, mais tu as le permanent. Puis dans le moment, nous autres, sur la planche à dessin, juste les derniers 12 mois, on a 5 entreprises qui ont travaillé là, pour du logement de travailleurs étrangers. Puis il y en a là-dedans que c'est des gens qui ont des activités saisonnières, mais dans les 4 saisons. Là. Mm-hmm. C'est l'été, ils vont travailler, mettons, en forêt, puis l'hiver, ils vont être sur le déneigement, je ne sais pas quoi. Puis ça va faire qu'ils ont besoin des travailleurs des 12 mois. Fait que ça, c'est une autre catégorie. Tu sais, tu as le saisonnier qui est juste l'été, puis tu as le temporaire qui est ici, il n'est pas avec sa famille, mais qui est ici 12 mois.
Avez-vous l'impression que quand ça passe justement par une entreprise qui, lui, a besoin de travailleurs, faire rouler l'économie, c'est le grand discours classique, là, on va développer des habitations plus rapidement que quand c'est la population générale, parce qu'on en a besoin aussi de logements. Là,
pas particulièrement.
Non?
Je voudrais qu'actuellement, il y a justement un enjeu au niveau du logement, où est-ce que ces entrepreneurs-là, pour sécuriser leur entreprise, dans le fond, ils ont besoin de travailleurs, puis pour être sûr de les avoir, mais il faut qu'ils soient certains de pouvoir les loger.
Mm-hmm.
Donc, ils ne peuvent pas attendre qu'il y ait des logements qui se construisent ou qui deviennent disponibles. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont acquérir des maisons, ils vont acquérir des immeubles eux-mêmes et ils vont les loger eux-mêmes dans leurs bâtiments. Mais là, c'est une solution court terme intéressante. Mm-hmm. Mais, tu sais, faut se mettre aussi dans la peau de ces entrepreneurs-là. C'est pas des gestionnaires immobiliers, c'est pas des intervenants sociaux, c'est pas...
C'est
pas ça leur travail, tu sais.
Non, mais c'est pour ça qu'on a besoin de clés d'eux
aussi,
de travailler ensemble.
Eux, ça en met beaucoup sur les épaules des entrepreneurs, mais aussi pour le travailleur, son employeur devient son locataire et des fois même son transporteur. Donc on a des dynamiques malsaines qui peuvent s'installer.
Absolument.
C'est un enjeu sur le territoire ici. Puis justement, d'offrir plus de, tu sais, de développer le logement. Même le logement neuf permet de libérer du logement qui peut, lui, être abordable, tu sais. Donc, c'est vraiment là-dessus que je vous dirais que les municipalités et la MRC sont
capables de travailler.
Oui, sont actuellement en travail là-dessus de sur ce sujet.
C'est vraiment intéressant, cette discussion-là. Écoute, ça me fait réaliser que, tu sais, l'urbanisme, c'est partout, c'est tout le temps. Et c'est surtout au-delà de juste aller chercher notre permis de rénovation. Puis, M. Maillot, vous aviez un mot pour les gens qui viennent chercher leur permis ou les gens qui ne viennent pas le chercher comme pour pas qu'on sache parce qu'ils ne veulent pas payer. Avant de terminer, parce que je trouvais ça intéressant, puis je sais qu'on s'est éloigné de ça avec le temps dans l'entrevue.
Oui,
j'aimerais vous entendre.
Ce serait un petit message que je voudrais faire aux gens pour leur éviter certains problèmes. C'est que dans les années, je vous dirais, les années 50, 60, 70, le permis, il servait qu'à donner une permission à un évaluateur pour aller évaluer, pour ajuster la valeur taxable. Mais avec les années, surtout le début des années 80, aller jusqu'à aujourd'hui, donc depuis 40 ans, la réglementation évolue à une vitesse assez rapide, puis de plus en plus exigeante et de plus en plus précise, que ce soit en matière d'environnement, en matière de construction ou n'importe quoi, en salubrité. Et puis, aussitôt qu'il y a une transaction, personne n'est à l'abri de ça. Un décès, il y a une transaction.
Oui, oui.
Tu dois changer d'emploi, tu vends ta propriété. Tu prends ta retraite, tu vends ta propriété. Juste ces trois situations-là, là, on en voit tous les jours. Là. Puis, je vois des successions avoir des problèmes à régler parce que les gens n'ont pas pris de permis, soit par négligence ou autre. Mais l'arpenteur passe parce que là, quand il y a une vente,
l'arpenteur
il y a un notaire.
Ouais.
Le notaire, il dit « Oh, mon honneur! » Il y a quasiment toujours des institutions financières. Puis les institutions financières sont assez exigeantes là-dedans. Il demande des certificats de conformité ou des certificats de localisation de l'arpenteur. Lui, il relève. Il voit sur le terrain relevé. On est où avec les constructions? Sont situées comment? Est-ce qu'ils sont conformes ou pas? Puis là, d'être là ou non conforme.
Fait que l'emprunteur, c'est toi qui es pris avec le problème.
Là, la banque ne prête pas.
Mais non.
La banque ne prête pas. Si tu es en train de régler une succession, ça peut être un gros problème. Fait que pour ça, le message que j'aurais lancé, venez vous informer de la réglementation avant d'élaborer votre projet, avant d'aller trop loin. Et puis, pour s'assurer que notre projet va être conforme, bien, on dépose des plans. Et quand on donne le permis, on dit « OK, on accepte, puis on vous déclare que ça va être conforme à la réglementation. » Donc, après que le projet va être réalisé, l'arpenteur va pouvoir confirmer que c'est conforme, puis la banque va prêter pour la transaction.
Ça règle beaucoup de problèmes pour tout le monde.
Ça évite des problèmes.
Hey, merci beaucoup, messieurs. C'était vraiment très riche comme discussion. Je pense qu'on pourra faire une deuxième émission juste pour continuer à réfléchir. Je ne sais pas si je vous ai amené ou si vous vouliez aller, mais moi, en tout cas, ça m'a fait triper. Donc, merci Alain Maillot, directeur de services urbanistes de la ville de Dolbeau-Mistassini, et Pierre-Luc Dufour, directeur fondateur de la firme Forum Services Urbanistes. Merci d'avoir été là. Merci aussi d'avoir été des nôtres lors de cette saison d'Échangeurs Turcotte. Mon nom est Pierre Turcotte. Je vous souhaite un bel été et on se retrouve probablement à l'automne prochain. Bye!
La vraie télé, c'est la télé communautaire, c'est la télé autonome, la télé libre, parce qu'elle n'est pas contrôlée par des géants, elle n'est pas contrôlée par de la publicité, elle n'est pas contrôlée par du gros argent, elle est contrôlée par vos intérêts. Tu veux savoir qu'est-ce qui intéresse les gens d'une place en particulier? Tu veux savoir qu'est-ce qui se passe en ce moment à Ville-Marie, dans les Basses-Laurentides? Bien, il faut que tu regardes la télé de cette place-là, puis elle est disponible sur le web à cette heure. Deux clics, tu sais ce qui se passe. Tu sais, l'avenir, là, c'est de parler des vrais enjeux, des vraies valeurs, de ce qui nous touche vraiment. Il n'y a rien de mieux qu'un médium local pour le faire. C'est pour ça que les télécommunautaires autonomes font ce travail-là. Et puis, on parle souvent de codes d'écoute, puis tout ça. Un, les codes d'écoute sont assez bonnes. Puis deux, le qualitatif, c'est important aussi. La qualité des gens qui regardent, c'est des gens intéressés, intéressants. Pourquoi? Parce qu'on regarde notre communauté. On peut passer à la TV pour parler de nos enjeux. Là, on parle des vraies affaires. On parle pas juste des Moses de vedettes de Chenoute de Montréal. Non! On parle de ce qui se passe chez toi.